VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour le monde aujourd'hui au sommaire de cette édition du lundi 23 octobre 2023. Au Mali, l'ONU a libéré aujourd'hui sous tension la base d'Aguelok dans la région de Kidal. Les États-Unis envisagent de nouer des relations avec la junte au Niger. En RDC, grève des opérateurs du secteur pétrolier dans le Nord Kivu, les habitants se plaignent de la hausse du prix des transports.
On nous demande à ce qu'on puisse adapter la nouvelle structure à la réalité du marché, mais cela traîne à arriver. Quand vous travaillez et que vous n'êtes pas en mesure de renouveler votre stock, ça ne sert à rien.
Reportage de notre correspondant dans la région à suivre dans la partie magazine. Israël a lancé aujourd'hui des centaines de frappes sur la bande de Gaza. Le Hamas fait état de 5000 morts. Ici aux États-Unis, 9 élus républicains briguent la présidence de la Chambre des représentants. Après près de 3 semaines de paralysie, ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, la mission de l'ONU a quitté ce lundi son camp d'Aguelok dans le nord, dans le cadre de son retrait d'ici la fin de l'année, alors que le pays est toujours en proie aux attaques de groupes djihadistes et séparatistes. Claire Morin-Gibou.
Nous avons définitivement quitté ce lundi notre camp d'Aguelok, a assuré un casque bleu tchadien. L'information a été confirmée par un responsable à Bamako et 2 élus locaux. Il n'y a pas encore eu de cérémonie de passation avec les autorités dans ce camp isolé. Le retrait des casques bleus d'Aguelok est le second dans la région de Kidal et le 7e dans le pays. La mission onusienne a annoncé avoir accéléré son départ du camp de Tessalit dans un contexte sécuritaire tendu qui, selon elle, a mis en danger la vie de son personnel. L'évacuation prochaine du camp de Kidal, fief de toutes les rébellions à dominante Touareg, s'annonce plus délicate. C'est dans la même ville de Kidal où l'armée malienne a subi une défaite humiliante en 2014. Le retrait des quelques 11 600 soldats de l'ONU et 1 500 policiers du Mali doit s'échelonner jusqu'au 31 décembre. Les groupes rebelles s'opposent à ce que la MINUSMA remette les camps aux autorités maliennes.
Les États-Unis vont nouer des relations avec la junte militaire au Niger, reconnaissant de fait la prise de pouvoir de l'armée lors d'un coup d'État en juillet dernier. C'est ce que rapporte le Financial Times, les précisions avec Nani Talani.
Nous nous engageons dans la région de manière cohérente avec nos lois afin de pouvoir continuer à garantir la sécurité dans la région, a dit Jude de Vermont, directeur des affaires africaines au Conseil de sécurité nationale, cité par le Financial Times. Plus de 1 000 soldats américains sont présents au Niger, la plupart dans la région d'Agadez, qui abrite une base de drones dans le nord du pays. La France, qui ne reconnaît pas la junte qui a renversé le président Mohamed Bazoum, s'est finalement résolu à retirer ses troupes du Niger. L'Union européenne, pour sa part, a adopté un cadre juridique lui permettant de prendre des sanctions contre le régime militaire au Niger. Elle a déjà suspendu son aide budgétaire à Niamey. Les sanctions de Bruxelles, selon le Conseil européen, vont viser aussi ceux qui portent atteinte à l'ordre constitutionnel, à la démocratie et à l'état de droit.
6 personnes ont été tuées hier soir au Niger dans l'explosion d'un camion-citerne près d'un village de la région de Zinder. 4 personnes sont décédées sur le coup et 2 autres ont succombé lundi à leur brûlure à l'hôpital de Zinder, a indiqué un responsable du gouvernorat. Selon le site Zinder Info, le drame est survenu dimanche aux environs de 20h quand 2 camions-citernes se sont renversés après s'être violemment heurtés à Tiermeni, une commune située à une dizaine de kilomètres de la ville de Zinder. La justice britannique a tranché aujourd'hui en faveur du gouvernement du Nigeria dans un litige gazier au long cours qui aurait pu contraindre cet État à verser plus de 11 milliards de dollars à une société pétrolière. Le Nigeria était en litige avec une compagnie chargée en 2010 de construire une usine de traitement de gaz à la pointe de la technologie dans le sud-est du pays pour produire de l'électricité. Mais le projet n'a jamais vu le jour et l'entreprise accusait le gouvernement nigérian d'avoir violé l'accord signé. La Cour d'appel d'Alger a condamné aujourd'hui 38 personnes à la peine capitale pour le lynchage à mort d'un homme pris à tort pour un pyromane après avoir aidé à éteindre des incendies meurtriers en 2021. Ces condamnations seront commuées en prison à vie car aucun moratoire sur l'application de la peine de mort est en vigueur depuis 1993. La situation en Haïti, gangrenée par la violence des gangs, s'est encore détériorée ces derniers mois, a alerté aujourd'hui la représentante de l'ONU dans le pays. Devant le Conseil de sécurité, Maria Isabel Salvador a fait savoir qu'entre le 1er juillet et le 30 septembre, la police a signalé 1239 homicides contre 577 au cours de la même période en 2022 et de juillet à septembre, 701 personnes ont été victimes d'enlèvements, soit 244% de plus qu'en 2022 à la même période. Elle espère que le déploiement attendu d'une force d'intervention multinationale va améliorer les choses.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a lancé ce lundi des centaines de frappes sur la bande de Gaza où la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien a fait, selon le Hamas, plus de 5000 morts. Le point avec Jacques Aristide.
L'armée israélienne a intensifié ses bombardements avant une éventuelle intervention terrestre. L'Iran, allié du Hamas, a averti que la situation risque de devenir incontrôlable au Moyen-Orient. Les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région. L'aide internationale arrive à Gaza depuis samedi via l'Égypte. Un troisième convoi a franchi la frontière à Rafah aujourd'hui. Une cinquantaine de camions sont entrés dans l'enclave palestinienne en 3 jours, alors que selon l'ONU, il en faudrait au moins 100 par jour pour répondre aux besoins de la population. D'après Washington, qui a obtenu l'accord d'Israël et celui de l'Égypte pour laisser passer l'aide humanitaire, il y aura dorénavant un flux continu dans Gaza de cette assistance cruciale. Des zones frontalières entre Israël et le Liban ont été évacuées après un accroissement des affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran et allié du Hamas. Les violences se multiplient également en Cisjordanie, territoire palestinien occupé.
Plus de 19 000 personnes ont été déplacées au Liban après une intensification des affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas islamiste palestinien en Israël. Le 7 octobre, les affrontements sont quasi quotidiens à la frontière israélo-libanaise et les craintes de voir le puissant Hezbollah pro-iranien ouvrir un nouveau front à partir du Liban sont vives. Au Congrès américain, la Chambre des représentants cherche toujours son président. L'élu de l'Ohio, Jim Jordan, a abandonné la course après 3 tentatives infructueuses. Maintenant, 9 candidats républicains sont en lice pour occuper le perchoir. Le point avec Rosine Monizero.
9 candidats sont dans la course pour le poste de speaker, dont le républicain Tom Emmer, numéro 3 de la Chambre des représentants. Kevin McCarthy, qui a perdu le poste le 3 octobre, lui a apporté soutien, soulignant son expérience à rassembler les votes des partis sur des textes législatifs majeurs depuis janvier, lorsque les républicains sont devenus majoritaires à la Chambre basse. « Ce n'est pas le moment de jouer à l'apprentissage », a déclaré M. McCarthy, ajoutant toutefois que la bataille sera rude. En janvier dernier, il a dû passer par 15 tours de vote avant d'occuper le perchoir. Le manque de leadership paralyse le Congrès américain, déjà confronté à la date butoir du 15 novembre pour éviter une fermeture du gouvernement fédéral. En plus, le président Joe Biden vient de demander au Congrès une énorme rallonge de plus de 105 milliards de dollars pour aider militairement Israël et l'Ukraine et répondre aux arrivées massives de migrants à la frontière sud du pays.
Un tribunal de Kazan en Russie a prolongé la détention provisoire de la journaliste russo-américaine Alsou Kormacheva, accusée d'avoir enfreint la loi russe sur les agents étrangers. Jusqu'au 5 décembre, les autorités russes estiment que la journaliste, basée à Prague et travaillant pour la radio financée par les États-Unis, Radio Liberté, ne s'est pas enregistrée comme agent étranger. La journaliste devrait être placée dans un centre de détention provisoire à Kazan, à environ 700 km à l'est de Moscou. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a transmis aujourd'hui au Parlement un projet de loi approuvant l'adhésion de la Suède à l'OTAN, ont annoncé ses services, une démarche saluée par Stockholm pour qui il s'agit de l'un des ultimes obstacles à son entrée dans l'Alliance transatlantique demandée en mai 2022. Recep Tayyip Erdogan avait promis en juillet dernier, lors d'un sommet de l'OTAN, de soumettre ce texte aux élus turcs le 1er octobre à la reprise des travaux parlementaires, après s'y être opposé pendant des mois, reprochant à la Suède d'abriter des ressortissants kurdes considérés comme terroristes. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Alexandrine Ollognon.
Selon la Banque centrale du Kenya, un dollar se vendait à 150 shillings ce lundi. La dépréciation du shilling kenyan s'est accélérée depuis un an, perdant près de 24% de sa valeur face au dollar. Cette dépréciation rend les importations plus onéreuses et vient alourdir le poids de la dette kenyane qui s'élevait à plus de 10 100 milliards de shillings fin juin. Selon les chiffres du Trésor, soit environ 2/3 du produit intérieur brut. La Tanzanie confie l'exploitation d'une partie du port de Dar es Salaam au géant émirati DP World. Les deux parties ont signé 3 contrats confiant l'exploitation au groupe émirati pour 30 ans. La ratification de cet accord par le Parlement en juin a suscité une vive contestation. Ses détracteurs estiment qu'il constitue un abandon de souveraineté, selon les mots du président du principal parti d'opposition. La Maison-Blanche vient de dévoiler la liste de 31 centres technologiques qui vont être créés aux États-Unis dans le cadre des plans massifs d'investissement. Ils ont été créés dans le cadre du Chips and Science Act, une loi votée à l'été 2022 afin de débloquer 52 milliards de dollars de subventions pour relancer la production de semi-conducteurs aux États-Unis. La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, compte sur ces centres pour créer de l'emploi, améliorer la sécurité nationale et aussi la sécurité économique.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
En Tanzanie, full enthousiasme pour le début de la Ligue africaine de football.
La nouvelle Ligue africaine de football réunissant 8 grands clubs du continent s'est ouverte vendredi à Dar es Salaam devant une foule enthousiaste pour un match historique entre le Simba Sports Club et les stars égyptiennes d'Al Ahly. C'est un jour très spécial dans l'histoire du football en Afrique. Aujourd'hui, nous allons montrer au peuple tanzanien, au peuple africain et au monde entier la beauté du football en Tanzanie, a lancé avant le coup d'envoi le président de la CAF, Patrice Motsepe, acclamé par applaudissements et vuvuzela. La première manche de cette confrontation aller-retour s'est soldée par un match nul de buts partout, au terme d'une rencontre intense sous les yeux du président de la FIFA, Gianni Infantino, et de dizaines de milliers de supporters du Simba Sports Club. Le stade Benjamin Mkapa, affiché complet pour le lancement de ce tournoi créé par la CAF dans le but d'améliorer la qualité du football en Afrique et favoriser la croissance financière des clubs participants.
Rugby mondial 2023, les All Blacks sont prêts pour la finale.
Les Néo-Zélandais sont prêts mentalement et physiquement pour la finale de la Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud, a assuré ce lundi leur entraîneur de la défense. Les All Blacks, qui ont perdu le match d'ouverture face aux hôtes français 27-13, peuvent remporter une 4e couronne planétaire, un record en cas de succès devant les Springboks, tenant du titre samedi au Stade de France. Ils ont éliminé l'Irlande 28-24, puis l'Argentine 44-6, en s'appuyant notamment sur une défense de fer. Les Springboks savent comment se battre et comment rester dans le coup. Ils l'ont démontré au fil des années, à commencer par la dernière Coupe du Monde, c'est leur ADN, et il n'a pas trop changé, a déclaré l'entraîneur néo-zélandais.
Parlons toujours de rugby, le Sud-Africain Mbonambi accusé d'injure raciale envers l'Anglais Curry.
Le World Rugby a ouvert une enquête contre le talonneur sud-africain, a indiqué ce lundi l'instance organisatrice de la Coupe du Monde. Bongi Bonambi fait l'objet également d'une enquête interne au Springboks, a indiqué l'encadrement sud-africain dimanche. Des sanctions sont rarement prises contre des joueurs pour des paroles prononcées sur le terrain. En 2016, l'anglais Joe Merler avait toutefois été suspendu 2 matchs pour des propos adressés au gallois Samson Lee. L'année précédente, le sud-africain Jacques Potiguet avait reçu une amende pour une insulte homophobe lors d'un match de Super Rugby.
Page de sport VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les embouteillages ont diminué sur les routes des différentes villes de la province du Nord Kivu à cause du manque de carburant suite à la grève des opérateurs économiques du secteur pétrolier. À Goma, chef-lieu de la province, les habitants se plaignent de la hausse du prix du transport pendant que les transporteurs ont vu le prix du litre d'essence doubler chez les vendeurs détaillants. Reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Netizaidi.
Pour quitter les quartiers Katindo, c'est rendre à son université, Jessica Essepo, une étudiante, a payé 5000 francs congolais au lieu de 2000 francs auparavant.
Nous avons vraiment ce grand problème de la hausse du prix de carburant. Il y a de ces revendeurs qui ne travaillent plus. Il y a aussi de ces stations qui sont en fermeture. Et du coup, on se retrouve face à un problème très sérieux parce que le prix du transport, c'est double et on a un problème de déplacement.
Bahati Chabiti est conducteur de taxi-moto et subit les manques de carburant et la hausse du prix chez les petits vendeurs détaillants, une situation qui est très mal vécue par ses clients.
Nos clients n'acceptaient pas de payer cher, disant que les problèmes des carburants ne les concernaient pas. Aujourd'hui, lundi, nous payons 1 litre du carburant à 6 000 francs. 1,5 litre se négocie entre 9 et 10 000 francs. Malgré cela, nous n'avons même pas où payer ces carburants. Nous ne savons pas quoi faire.
L'association des pétroliers du Nord Kivu, à Penoki, par l'entremise de son président Providence Muhiga dit avoir déclenché cette grève pour exiger au gouvernement une structure des prix adaptée à la réalité du marché.
Ça fait beaucoup de temps, plus de 3 mois ou si pas plus, que nous sommes en train de travailler à perte. Où nous demandons à ce qu'on puisse adapter la nouvelle structure à la réalité du marché. D'abord le prix sur le marché international et puis sur le taux de change. Mais cela traîne à arriver. Quand vous travaillez et que vous n'êtes pas à mesure de renouveler votre stock, ça ne sert à rien.
Le gouvernement congolais s'est penché sur la question lors de son dernier conseil de ministres. Patrick Muyaya, ministre des communications et porte-parole du gouvernement, se veut rassurant.
Cette réunion a également permis d'examiner la question du financement de manque à gagner prévu par le gouvernement en faveur du pétrolier. Le gouvernement de la République rassure toutes les parties prenantes et plus largement l'opinion publique nationale que toutes les dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier des produits pétroliers.
Cette grève des pétroliers du Nord Kivu a été déclenchée en même temps que celle des pétroliers de la province du Haut-Katanga. Tard à la soirée, quelques stations ont commencé à rouvrir les pompes, mais les prix du carburant est toujours à la hausse. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Recherche et innovation, le savoir-faire camerounais exposé à Yaoundé. C'était à l'occasion des journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation. Le fruit des recherches et de l'innovation à base de matériaux locaux dans les domaines de la santé, du génie civil, de l'agroalimentaire ont été présentés au public. Compte rendu de Yaoundé, Emmanuel Julenta.
Stella Ananjou est une jeune boursière du programme de promotion de la recherche, de l'innovation et de la culture numérique en Afrique centrale. Étudiante à l'université de Yaoundé 1, Elle a déjà à son actif des produits issus des recherches sur la résistance mécanique des bétons.
Nous avons constaté qu'avec des bétons ordinaires, qu'il y a souvent des pores. On a utilisé un nouveau type de béton où on a optimisé un peu pour question de limiter ces pores-là. Et on utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir réduire le travail des experts du domaine.
Christa Nduro, une autre boussière du même programme, a quant à elle mené des recherches qui ont abouti à la fabrication des pavés et carreaux à base de matériaux locaux.
Le ciment ordinaire qu'on appelle ciment Portland a une forte émission de CO2. On cherche ici une alternative au ciment Portland dont intervient notre ciment le jour polymère qui est à base de matériaux locaux, notamment l'argile et d'une solution chimique.
Des jeunes innovateurs de l'intérieur du pays ont aussi exposé leur savoir-faire. Thérèse Ngoloum, une potière en céramique, est basée à Garoua, dans la région du Nord.
J'ai créé une association avec les femmes potières de la zone avec lesquelles on travaille pour échanger. Moi, j'apprends ce qu'elles font, leur façon de travailler, et elles apprennent de moi, parce qu'elles ont seulement un seul style de canari. Et moi, je leur apprends à faire d'autres formes et à bien travailler les poteries et aussi sur la qualité du produit parce que elles, quand elles travaillent, en général, c'est pas bien cuit. Et moi, je leur apporte mon plus fort.
Des valeurs sûres de la recherche et de l'innovation du Cameroun ont également participé à la foire de Yaoundé. Parmi eux, Serge Armel Ndidjou, inventeur en 2018 de la couveuse néonatale. Il a présenté deux nouveaux produits.
On a fabriqué un purificateur d'air spécifique qui propose donc la désinfection gazeuse, qui est vraiment l'outil que je pense va être adapté pour désinfecter nos milieux, notamment les plus sensibles. L'autre produit, là, vraiment grand public, c'est le distributeur de boissons.
Le nœud gordien pour tous ces chercheurs demeure le financement de leur invention. Serge Armel Didjou, manager de l'Agence universelle pour l'innovation.
C'est terrible. Malgré qu'il y ait un discours politique de plus en plus offensif sur la question de la production locale, sur l'import substitution, sur le terrain, il n'y a pas grand-chose. Le premier effort à faire pour les innovateurs, c'est se priver. Le plus grand financeur, c'est le client.
Thérèse Goloum, potière de GIC Céramique à Garoua.
Ce qui m'a permis de m'installer, par exemple, c'est un financement des petites et moyennes entreprises. Donc j'ai eu le financement et puis je me suis installée. J'ai acheté la machine que vous voyez là le tour. J'ai acheté, fait fabriquer un four traditionnel à bois par un de mes encadreurs de la Micromalo et puis avec ça, je m'en sors.
Depuis le 8 août dernier, le président de la République a doté le corps des chercheurs camerounais d'un statut spécial. Le texte permet désormais à certaines catégories de chercheurs de rester actifs jusqu'à 65 ans. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Nigeria, la Banque centrale a annoncé son intention d'intervenir sur le marché des changes pour accroître la liquidité afin de lutter contre la dévaluation chronique de la monnaie locale, le Naira. Reportage signé Gilbert Tamba à Abuja.
Magnesi, une petite et moyenne entreprise nigériane spécialisée dans la conception et la production de sacs et accessoires faits à la main avec une variété de tissus imprimés et de cuir. Au moins 80% de la plupart des matériaux utilisés pour la production de ces sacs sont importés. Avec le taux d'échange actuel du dollar, l'entreprise peine à joindre les dépôts. Niama Kangwo Sisi, PDG de Magnesi Collections.
La situation n'est pas facile, et je vous le dis, et je suis certain que toute autre personne qui est fabricant doit importer ses matériaux de l'extérieur du pays ressent la douleur. Nous achetons environ 80% de nos produits au Nigeria, mais la plupart des produits, nous les achetons à l'étranger. Comment accéder à ces matériaux lorsque nous n'avons pas accès aux devises étrangères? On gagne de l'argent en Naira, il faut le changer au marché noir pour avoir des devises étrangères.
L'écart de taux d'échange sur le marché parallèle est énorme par rapport au taux officiel de la Banque centrale. La plupart des importateurs nigérians et propriétaires de petites et moyennes entreprises n'ont pas accès au dollar au taux officiel. Cela a rendu la situation difficile pour les importateurs de marchandises et de matières premières. Ida James est vendeur dans le marché de Guarimpa à la périphérie d'Abuja.
À propos de ce taux de dollar qui augmente, et à mesure que le taux de dollar augmente, ça devient difficile. Et si vous voulez payer les frais de scolarité de vos enfants qui sont à l'extérieur du pays, vous ne pourrez pas payer. Et si vous voulez acheter des dollars, ils vous diront un taux différent. C'est pourquoi les prix des choses continuent d'augmenter.
Non loin de sa table se trouve la boutique de Hassan, importateur de riz.
Vraiment, vous voyez le problème. Au Nigeria, nous utilisons le Naira, mais nous parlons toujours des dollars. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. La plupart des marchandises qui viennent de l'extérieur sont importées avec des dollars. Donc chaque fois que nous avons un problème avec les dollars, cela affecte les Nigériens. Comme le riz et la plupart des choses que nous avons dans nos magasins, nous les achetons en dollars et chaque fois que nous avons ce genre de problème, cela affecte généralement au Nigeria.
La monnaie nigériane a chuté régulièrement par rapport au dollar américain entre 2015 et mars 2017 et a atteint aujourd'hui un niveau record à plus de 1000 naira pour un dollar. La Banque centrale veut intervenir sur le marché d'échange pour accroître la liquidité pour résoudre la crise de la dévaluation du naira. La réaction de l'économiste Issa Abdullahi.
Cela pourrait aider à stabiliser la situation pendant une période limitée, mais à long terme, si le gouvernement n'arrive pas à gérer la situation, ça va revenir à sa position normale ancienne. Donc, pour que nous puissions parier sur une stabilité, nous devons impliquer tout le monde dans le travail. Nos jeunes doivent trouver un emploi et nous devons soutenir notre propre économie en utilisant les ressources naturelles dont nous disposons.
Les startups nigérianes qui lèvent généralement des fonds en dollars et génèrent des revenus en naira sont aussi très touchées. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
VOA Afrique en direct de Washington.
On parle maintenant de liberté de la presse au Burkina Faso. La 10e édition du FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de presse, a refermé ses portes ce week-end à Ouagadougou. Une édition qui s'est penchée sur le rôle des médias dans un contexte d'insécurité. Au moins 200 journalistes venus de 33 pays ont participé au FILEP de Ouagadougou. Notre correspondant Lamine Traoré.
Le Festival international de la liberté d'expression et de presse a réuni plusieurs centaines de professionnels. La majeure partie des discussions a tourné autour de la question « Quelle liberté de presse dans un contexte d'insécurité et de transition ?» Idriss Ouédraogo, spécialiste en communication, enseignant et analyste politique.
Ce n'est pas la vérité brute qu'on transmet pour être un journaliste. Il y a un niveau de traitement. Dans le traitement, il y a des jugements en tant que tel. Pour moi, ça existe. Maintenant, on peut diverger ou ne pas diverger. Tiens, il y a les prix Galien. Qu'est-ce qui se passe? Tout sort peut-être d'une même école de journalisme. Les articles sont bons, mais parmi les articles, on classe certains au-dessus des autres. Pourquoi? Tous sont de bons articles. Mais seulement il y a une touche et une appréciation, il y a un angle d'appréciation de la même réalité qui fait qu'on trouve que si on est prêt à accepter qu'on encense un article, il faut aussi être prêt à accepter qu'on critique un article.
Arnaud Ouédraogo est le coordonnateur de la CENOZO, la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest.
On veut bien se remettre en question, améliorer ce que nous faisons, parce qu'au niveau des organisations professionnelles de médias, à commencer par la CENOZO, Nous organisons beaucoup de formations à l'endroit des journalistes pour améliorer la qualité de leur travail. Nous donnons même des bourses pour soutenir les recherches pour qu'ils puissent documenter le maximum possible les recherches. Nous allons jusqu'à confier les productions des journalistes à des conseils juridiques pour qu'ils partent aux éventuels dérapages vis-à-vis des textes de loi.
Pour Emmanuel Ouédraogo, ministre de la Communication, il n'y a pas de liberté dans un pays qui n'est pas libre.
La première des libertés pour laquelle nous devons tous nous battre, avec beaucoup d'engagement, c'est la liberté de notre pays. C'est ça la première liberté. Et quand je parle de liberté, c'est le simple droit à la vie. Parce que nous avons des concitoyens aujourd'hui qui n'ont même plus ce droit à la vie au quotidien, tout simplement parce qu'on a des hordes terroristes qui se plaisent au quotidien à tuer des civils. Et je pense qu'aujourd'hui, il est illusoire de penser qu'on puisse avoir une liberté qui puisse surnager dans un pays qui n'est pas libre.
Le Festival international de la liberté d'expression et de la presse dure maintenant depuis 23 ans. Le festival a recommandé aux États africains d'accompagner les organisations professionnelles dans la formation des journalistes sur l'éthique et la déontologie, la responsabilité sociale et le traitement de l'information en temps de crise. Aussi, le festival a condamné les atteintes à la liberté d'expression et de presse et a appelé les autorités à garantir les droits et devoirs des citoyens, y compris la liberté d'opinion, et à prendre les mesures de protection des journalistes et des médias dans l'exercice de leurs fonctions. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.